propose de faire une longue lecture et un plus petit commentaire. Ce sera peut-être l'inverse de certaines habitudes qu'on a dans nos églises. Jean chapitre 9. Vous repérerez vous-même d'ailleurs ce que vous avez exprimé sous l'inspiration de la grâce, comme on dit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui !» D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble !» Et lui-même disait, « C'est moi !» Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi serions-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, vous seriez irresponsables. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Voilà pour cette lecture, qui va donc jusqu'au chapitre 10. Et vous comprendrez pourquoi. J'ajouterai une petite lecture dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 6 à 11. 1 Corinthiens 2, 6 à 11. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit avec un E majuscule, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous et parmi nous ce matin va nous conduire dans la compréhension de ce que dit Jésus. Il leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est étonnant. Juste une précision en ce qui concerne la mention des Juifs. Il s'agit en aucun cas des Juifs en général, mais des responsables du peuple, des responsables religieux, les docteurs de la loi, les pharisiens, les prêtres. C'est ceux-là que Jean a l'habitude de nommer par ce terme les Juifs, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Il faut comprendre, me semble-t-il, cette parabole du berger, des brebis, à la lumière du récit de la guérison de l'aveugle né. L'aveugle guéri, c'est lui, la brebis, qui reconnaît la voix du bon berger. Les responsables religieux sont les voleurs et les brigands qui harcèlent cet homme guéri pour essayer de le détacher de Jésus. Au chapitre 9 et au verset 32, Jean fait remarquer le caractère inouï de la guérison d'un aveugle de naissance. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. C'est pourquoi ce signe occupe un chapitre entier et devient emblématique de la condition du disciple. C'est comme si l'on disait que être disciple de Jésus résulte d'un miracle inouï, de la guérison d'une cécité de toujours, une vraie maladie génétique, spirituelle, dont nous sommes tous atteints. C'est-à-dire que les choses de Dieu sont inaccessibles par le seul secours de la raison humaine. C'est ce que Paul nous dit. Nous avons tous besoin d'une révélation de Jésus-Christ. Il ne sert à rien de savoir quel était l'aspect de son visage. Il ne sert à rien de savoir si son procès était juste ou pas. Si c'est la faute aux Juifs, aux Romains, qu'il a été crucifié, ça ne sert à rien. La révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit peut seule nous mener hors, dehors. Il les mène dehors, c'est-à-dire qu'il les libère des enclos dans lesquels nous sommes enclosés. Comprenez-vous ? Lui seul peut nous conduire à la lumière comme un berger conduit ses brebis. Devenir chrétien, c'est donc passer des ténèbres à la lumière. Et le verset 6 du chapitre 10 montre bien que les disciples de Jésus ont encore du chemin à faire. La guérison de l'aveugle se fait en deux temps. Curieux procédé. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il met cette boue sur les yeux de l'aveugle, comme s'il voulait ajouter une cécité artificielle à celle de naissance. Et puis il lui dit d'aller se laver. Il faudrait savoir ce qu'il veut. Hein. Il salit tout, puis après il va te laver. En fait, les gestes de Jésus sont une véritable mise en scène. Beaucoup de prophètes, d'ailleurs, dans la Bible, ont mis en scène leur message. Je pense à Ézéchiel, ou Ésaïe, ou Jérémie, de plusieurs manières. Ils ont exprimé, c'est comme s'ils disaient « Voyez-vous ce que je veux dire ?» Et là, nous retrouvons le thème toujours présent du « voir et entendre ». Le premier temps de cette guérison exige une part d'obéissance. « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, l'envoyé. » Alors, je pense qu'il y a là une allusion au baptême qui confesse la foi. « Lave-toi au réservoir de l'envoyé. » La foi ne peut pas se vivre sans un point de départ qui l'explicite. Ce n'est pas seulement une affaire intime, personnelle. Vous savez, il y a des gens qui vous disent « Oh, moi je suis croyant, mais pas pratiquant. » on ne peut pas être croyant et pas pratiquant. Le deuxième temps de la guérison sera l'œuvre de Jésus qui se révèle. C'est-à-dire que Jésus vient à la rencontre du désir de croire de cet homme guéri. À la fin du chapitre 9. Crois-tu au Fils de Dieu ? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie ? Il est prêt, il est mûr. Ça, c'est un vrai pasteur. Voyez-vous, les faux pasteurs, les voleurs et les brigands, n'ont pas du tout la même approche. Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Ils veulent lui mettre la main dessus, hein, carrément. Lui mettre le grappin pour l'attacher à eux et ne pas le laisser aller vers Jésus. C'est toujours comme ça. Hier, je regardais sur Mediapart, comme ça vous saurez que j'y suis abonné, un film d'à peu près une heure qui racontait l'histoire d'une paroisse qui se situe entre Skaer et Kerrien. Hein, c'est pas loin d'ici. Les faits se déroulent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a là un village qui avait élu une mairie socialiste. Oh là là, quelle horreur! Alors, ce fut immédiatement une histoire à la Don Camillo et Pépone. Hein. C'est la guerre entre l'école du bon Dieu et l'école du diable, etc. C'est toute une histoire, toute une affaire. L'intéressant, c'est de voir le comportement de l'Église face à cette émergence d'une présence hérétique ou exogène dans cette paroisse bretonne. Hein. Et par mesure de rétorsion, ça a été si loin que un jour, l'évêque de Vannes a décrété l'interdit de cette paroisse. Toute une paroisse frappée d'interdit. C'est-à-dire qu'on ferme l'église, il n'y a plus de curé, il n'y a plus de baptême, plus de mariage, plus d'enterrement. Les gens étaient complètement désorientés. Et étaient frappés de voir combien il y avait un espèce d'affolement. Quelqu'un disait, c'est comme la guerre, voyez-vous. Et puis, les commerces périclitaient parce que on venait de tous les hameaux autour de ce village. Je ne sais, je me souviens plus le nom, vous savez, les noms bretons, ils sont des fois un peu indigestes. Pardon. Hein. Et les gens venaient de loin en char à banc, enfin en cheval, à pied. Et le dimanche, c'était le jour où on allait faire ses achats. Parce qu'il n'y avait que dans ce village qu'il y avait couturiers, boulangers, bouchers, cordonniers, enfin tout ce qu'il y avait à faire. Et les gens venaient le dimanche. Donc plus de messe, plus personne. Les commerces piquent du nez. C'est vous dire l'influence d'un système religieux qui impose, qui ne tolère rien. Et vous voulez vous étonner après ça que les gens aient perdu la foi, qu'il y ait tant de mécréants, entre guillemets, qu'il y ait tant d'anticléricaux. Moi, j'ai fui aumônier à la prison de Nantes pendant un certain nombre d'années. Je peux vous dire que cette église-là, de cette époque-là, a engendré de nombreux athées, de nombreux révoltés. Et il n'est pas très étonnant qu'aujourd'hui on ait tant de peine à oser parler de Jésus. Ça, c'est, voilà, c'était une église fourvoyée, voyez, une église fourvoyée. Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Je ferme cette petite parenthèse, hein. Les chefs religieux veulent imposer à cet homme, lui faire peur. Ils veulent l'impressionner. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Mais il lui résiste. Il ne se laisse pas avoir. Et il dit, mais c'est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Et ça, c'est quelque chose quand même de pas très ordinaire. Dans notre lecture du chapitre 10, l'aveugle guéri apparaît sous l'image de la brebis. Et alors qu'au chapitre 9, il est question de voir, au chapitre 10, il est question d'entendre la voix du berger. Il s'agit là encore d'une guérison, entendre, reconnaître sa voix, discerner entre le bon berger et les faux bergers. Ça aussi résulte d'une guérison, la guérison d'une surdité, là encore génétique. Nous sommes tous nés aveugles et sourds aux choses de Dieu. C'est comme ça. On peut tenir des discours sur la divinité, sur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on le connaisse. Seul Jésus-Christ nous révèle Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. L'empreinte de sa personne. En dehors de lui, il nous est impossible d'accéder à cette vérité. Je sais bien qu'on supporte mal dans le monde aujourd'hui qu'on dise que Jésus-Christ est le seul chemin, l'unique chemin pour aller à Dieu. C'est pourtant vrai. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'agisse pas en dehors. On ne peut pas canaliser l'œuvre de Dieu. L'Esprit Saint agit où il lui semble bon. Jésus dit, le vent souffle où il veut. N'est-ce pas l'Esprit ? L'Esprit agit dans le monde entier. J'en suis persuadé. La seule chose, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à nommer ce qui les titille, ce qui les inspire quelque part, ce qui leur redonne quelque part un peu de lumière, un peu de courage. Vous savez, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. La seule maillon manquant, c'est de pouvoir nommer la source de l'Esprit qui agit. Alors on parle de conscience religieuse, des choses d'en haut, des choses de l'Esprit. On n'ose pas le nommer, on n'ose pas dire « c'est Jésus-Christ ». Mais c'est pourtant lui. Et voyez-vous, frères et sœurs, notre beau rôle, notre belle mission, c'est de pouvoir contribuer, aider les gens dans leur cheminement, comme le fait Jésus exactement pour cet homme. Crois-tu au Fils de Dieu ? Il ne s'agit pas d'imposer la foi chrétienne, mais de savoir poser les bonnes questions aux gens. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? C'est magnifique ce que fait Jésus. L'aveugle guéri entend des voix étrangères. Il est confronté au risque du discernement. Sitôt guéri, on voudrait lui faire dire que Jésus ne vient pas de Dieu. En réalité, on voudrait le maintenir dans la dépendance du système religieux ancien, l'empêcher de suivre Jésus dans la liberté. Or, il va s'échapper de leurs mains. Ou plutôt, à court d'arguments, ils vont le chasser en l'insultant. C'est comme s'ils voulaient lui rappeler qu'après tout, il était né tout entier dans le péché, puisqu'il était né aveugle. Ils font l'impasse sur la guérison. Tu étais pourtant bien né aveugle, donc il y a quelque chose qui ne collait pas. Tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. On ne sait pas qui est le plus captif dans cette histoire. Moi, il me semble que ce sont les chefs religieux, captifs de leur vision d'un Dieu vengeur. Un Dieu qui punit. Le cocasse de cette confrontation, c'est que pour leur tenir tête, l'homme guéri se sert de leurs propres armes. Nous savons, parce que c'est votre catéchisme, hein, que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si cet homme, Jésus qui m'a guéri, ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. On peut en déduire que l'aveugle voyait déjà assez clair dans sa tête et qu'il a commencé à ne plus avoir peur. Et nous savons combien dans la bouche de Jésus, cela est venu souvent, n'ayez pas peur, ne crains rien. Aucune grandeur, dignité ecclésiastique ne doit te faire peur. « La confrontation demeure pour nous. Aujourd'hui encore, l'Évangile nous autorise la confiance. N'ayez pas peur. Jésus nous révèle un Père miséricordieux, fidèle à son alliance de paix. Nous avons à résister à la mentalité dominante, aux sollicitations de ce siècle qui sont aussi autant de voix étrangères et mensongères. Nous sommes invités à résister au harcèlement consumériste qui voudrait nous détacher de toute vie intérieure. La confrontation se joue entre la sagesse de Dieu et celle des hommes, l'apparente folie de Dieu et l'apparente faiblesse de Dieu. Paul ose parler comme ça. Qui font la substance même de l'Évangile vont absolument à l'encontre des pensées humaines qui dominent notre époque. Le culte du chef, le culte de la performance, le culte du mérite, je parle bien de culte, car on est prosterné devant ces choses. Le refus des limites, le refus de la lenteur, ça va jusque-là. L'élimination des maillons faibles, ça c'est notre mentalité. L'Évangile va à l'encontre. Pour l'Évangile, ce sont des voix étrangères, mensongères. Et quand je dis voix, peut-être ça pourrait avoir le double sens de voix VOX et voix VOIES. La cupidité généralisée, la fermeture aux étrangers, la liste des éléments qui forment la trame de notre histoire est infinie. La confrontation se manifeste encore dans la mission d'évangélisation confiée à chacun, à chacune d'entre nous. L'apôtre Paul parle d'être en ambassade dans le monde. Parler ainsi, c'est considérer une frontière spirituelle, un dedans et un dehors. Il y a cette parole fameuse où Paul dit « N'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger, ceux du dehors, Dieu les jugera. » Nous n'avons pas à réglementer la société. L'Église a eu du mal à renoncer à ce pouvoir réglementaire. Merci, Michel. Oui, une frontière spirituelle. Une frontière qui nécessite une loyauté envers le monde que nous représentons, celui du Christ. Et aussi un amour lucide envers le monde, devenu étranger pour nous, mais dans lequel nous sommes envoyés. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà l'enjeu. Reconnaître la voix du bon berger, la distinguer de celle des voleurs et des brigands, cela commence par distinguer deux discours au sujet de l'aveugle de naissance. Alors que les disciples n'y voient que le châtiment d'un péché, Jésus, pour sa part, discerne un projet de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Et il agit en conséquence. Est-ce que nous sommes capables de nous affranchir, nous aussi, des idéologies dominantes pour nous mettre à l'écoute de sa voix ? Je dis cela parce que même dans les églises chrétiennes, il subsiste encore pas mal de discours culpabilisateurs en direction des souffrants. Est-ce que je me trompe? Les amis de Job ont une large postérité. Reconnaître la voix du bon berger, la distinguer de celle des voleurs et des brigands, cela consiste pour l'homme guéri à s'en tenir au simple bon sens, à repérer la mauvaise foi des responsables religieux et à s'en tenir aux faits. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est pourquoi il importe pour nous de faire mémoire des bienfaits de Dieu. Et le repas du Seigneur nous attend pour le faire. Amen.
Merci, Laurent.